multinationale. C'est un peu des clowns, quoi. C'est un peu un cirque, tout ça. Du coup, une fierté... Ouais. Pas plus que ça, une fierté, quoi.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très excité aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, et pas tout à fait n'importe lequel, parce que, bien sûr, pour l'instant, rien ne laisse supposer ce qui se trame en coulisses. Le studio 611 est calme, mais je connais les dirigeants de France Inter et je me doute de la fiesta surprise qu'ils ont dû nous concocter pour la 700e de Zoom Zoom Zen. Eh bien, on va démarrer l'émission tranquille, posant les bases de notre sujet du jour, les multinationales. Quentin nous racontera comment il a bâti la Lui Incorporated, qui rayonne aujourd'hui dans le monde entier, tout en déjouant les fiscs des différents pays, ce qu'il appelle les vampires de la redistribution. Oh. Bref, on devisera sérieusement avec notre invité quand soudain, porté par deux gogo dancers, Céline Pigalle débarquera dans le studio avec un Jéroboam de Dom Pérignon qu'elle sabrera devant nous avant de nous asperger généreusement. À cet instant, la lumière s'éteindra, puis se rallumera sur Laurent Goumard, qui nous jouera Simply the Best de Tina Turner sur un orgue Bon Tempi. Et au moment où je me dirais que quand même tout ça est un peu cheap, qu'ils auraient pu faire un effort, nous surprendre en invitant une vraie star, je verrai surgir Vincent Niclot, qui nous offrira une sublime reprise de Queen. Voilà certainement à quoi va ressembler cette 700e, à moins que, à part nous, personne n'ait relevé que c'était la 700e et que rien de spécial n'ait été prévu, ce qui serait au fond mieux, car rien est toujours mieux que Vincent Niclot. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu et bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous Camille. Alors journaliste, chroniqueuse, les auditeurs de France Inter vous connaissent parfaitement. Les petits bateaux tous les soirs à 20h05 et Debout la Terre tous les matins dans le 5-7. Vous sortez aujourd'hui 4 épisodes d'une nouvelle série de podcasts consacrée aux multinationales. Voyage passionnant dans l'histoire et les coulisses de ces mastodontes qui rythment notre vie quotidienne. On va le voir, 4 premiers épisodes consacrés à Amazon, Coca, Chine et Total, avant de retrouver ensuite Uber, TikTok, Monsanto et LVMH d'ici cet été. Quels sont les points commun.
Une petite neuvième, mais je laisse le suspense.
Qui donc, Radio France?
Non, quand même pas.
De l'épisode Uber, en tout cas.
Oui, c'est Uber, Mathieu.
Oui, alors comment vous appelez le groupe anglais?
Gorillaz.
Ah oui, Gorillaz. Parce que je vous ai tout appris, alors merci. Heureusement que j'étais là pour vous éduquer, alors taisez-vous. Quels sont les points communs entre toutes ces multinationales? Quels sont leurs parts d'ombre? C'est ce que vous allez nous raconter, Camille, en gardant quand même en tête cette info. Patrick Pouyanné est le parrain des enfants de Cyril.
Combien
en attendant, combien
de parrains ont mes enfants?
Vous avez beaucoup de parrains.
Combien t'as d'enfants déjà?
C'est symbolique.
En attendant, je vous présente mes fidèles complices. 700 émissions ensemble, quand je pense que lorsqu'on a commencé, ils étaient à peine pubères. Si tant est qu'on considère le processus achevé chez Quentin. Oh, Quentin, lui, Manon Mariani, bonjour.
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 Bonjour à tous.
C'est vrai que j'ai peut-être plus de barbe qu'avant.
Oui, c'est vrai. C'est, oui,
mais elle était plus éparpillée qu'avant, éparse. Ouais.
Elle est gentille de pas souligner. Très fournie, mais bon. Manon, dans votre pièce jointe cet après-midi.
Eh ben, un bad buzz assez cocasse que l'on doit au CEO de McDonald's qui a tenté de manger son propre burger et qui s'est totalement loupé.
Ah, ça a l'air rigolo, ça.
Oui, c'est très rigolo.
Face à vous, Camille. Moi, je découvre un thème de l'émission, c'est ma candeur. Face à vous, Camille, en 700 émissions, il aura interviewé des milliers de passants. Alors, les mauvaises langues vous diront que la moitié étaient des comédiens du cours Florent à qui filer un petit billet pour lui raconter ce qu'il voulait entendre. Mais globalement, son micro-trottoir est un succès. Qui se souvient encore de Guillaume Meurice? Visiblement, quelques auditeurs quand même s'en souviennent. Non, mais bon, ça suffit. Quentin, c'était ce matin votre 700e micro-trottoir. Oui. Alors, quel regard portent les gens sur les multinationales?
Avant tout, je suis ravi de partager l'antenne avec vous, les amis.
Non, depuis 4 années.
Même vous, Cyril.
Non.
Bon, les multinationales, ils les voient, évidemment, les gens dans la rue, parce que ça gravite autour de nous. Ou est-ce que c'est nous qui gravitons autour d'elles aujourd'hui? Dans la rue, on a réfléchi ensemble à l'impact qu'elles ont sur nos vies, sur nos choix aussi, témoignages et réponses dans ce micro-trottoir complètement à la rue, Mathieu.
Bien sûr. Vers 16h30, nous jouerons avec les multinationales les plus puissantes, mais aussi les moins connues. Oubliez Amazon, Apple et Total, on va partir à la découverte de ces entreprises titanesques qui sont partout, qui régissent votre quotidien, mais dont vous ne connaissez même pas les noms. Après 17h, restez avec nous car les jours passent, mais on n'y voit toujours pas beaucoup plus clair. Quelle est la situation en Iran? Le régime des Mollahs pourrait-il finalement survivre à l'assaut américain? On fera un point sur la situation, mais d'abord, on va donc zoomer sur les multinationales. Camille Cronier, vous êtes journaliste spécialiste plutôt dans l'environnement et les sciences. Pourquoi avoir décidé de vous intéresser à ces fameuses multinationales?
Parce que, alors c'est un peu égoïste, mais j'en parlais tout le temps quand j'étais dans La Terre au Carré jusqu'à l'année dernière. Bon, j'en parle beaucoup aussi le matin dans Debout la Terre, mais Total Énergie en particulier. En fait, au mois de mai l'année dernière, j'étais en train de faire de la randonnée dans le sud de la France. Bon voilà, je sais pas pourquoi, je pensais à Patrick Pouyanné et à Total. Ne demandez pas d'où ça venait. Et d'un coup, je me suis dit, mais en vrai, je sais même pas comment Total est né. Et puis d'un coup, je me suis dit, ça pourrait faire une histoire de raconter comment c'est né, comment ça a grandi. Puis en fait, j'ai commencé à penser à d'autres multinationales et je me suis dit, mais en fait, là, il y a une idée de podcast. Donc dans le train retour, j'ai fait un mail à la direction en disant, voilà, je vous propose cette idée de podcast. J'avais, je sais pas combien de dizaines de noms de multinationales.
Oui, ça manque pas.
Non. Alors après, quand même, il y en a dont l'histoire est plus rigolote ou intéressante ou à rebondissement à raconter que d'autres. Mais je leur envoie un mail et début juillet, ils m'ont dit, en fait, on a vérifié, parce que j'ai quand même regardé avant, est-ce que ça a été fait, il y a eu des livres et tout, mais pas comme ça. Donc je me suis dit, allez, let's go. Voilà. Avec un bel anglicisme.
On va découvrir donc tous ces podcasts bientôt, y compris le podcast secret, le 9e.
Le 9e. Alors là, il y en a 4 quand même qui sont déjà à l'écoute.
4 qui sont déjà disponibles.
Je ne vous conseille pas forcément de les écouter à la suite. Ça peut être un peu lourd à l'écoute, n'est-ce pas? C'est dense et ce n'est pas forcément très joyeux, mais... Ah, Cyril.
Non, je trouve que c'est assez souriant qu'on raconte, qu'on s'y met facilement. Quoi. Enfin,
mais ça le week-end dernier, vous savez.
Non, pas le week-end, non.
Sous la douche, ce matin. Donc 4 aujourd'hui et 5 d'ici cet été. Normalement, c'est fin mai, mais je préfère dire d'ici l'été au cas où il y a un petit peu de retard, sait-on jamais.
Lui, justement, il fait souvent ce rêve. Sur le flybridge de son yacht, les doigts de pied en éventail, il consulte ses comptes en banque chez Goldman Sachs. Tiens, il a encore gagné 30 millions de dollars en une nuit. Forcément, dans son rêve, Netflix a lamentablement échoué avec son idée à la con, il l'a toujours dit, de vendre aux gens un abonnement pour regarder des films et séries chez eux. Alors que son idée géniale du vidéoclub, centrée sur la location de Blu-ray, a fait de Cyril la première fortune de France devant Bernard Arnault, qu'il a d'ailleurs invité à petit déjeuner sur son navire, le Lacarzu's Heaven. Hélas, à 14h45, son réveil sonne. Il réalise que c'est Netflix qui a gagné, que sa chaîne Vidéo Avenir a déposé le bilan en 2003 et qu'il doit cachetonner avec une chronique à 7h du mat pour maintenir le navire familial à flot. Ouais, pauvre Cyril. Racontez-nous néanmoins, avec certainement une pointe d'amertume, les multinationales d'où ça sort.
Imaginez Apple, Total, McDonald's, Coca-Cola, des monstres économiques qui ont parfois plus de pouvoir et d'argent que des États entiers. Avec l'apparition des GAFAM, on pourrait croire que c'est une invention récente, mais non, ça remonte à beaucoup plus loin.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam.
Dans le port d'Amsterdam, en 1602, il n'y avait pas que des marins qui chantent et qui boivent, il y avait aussi la VOC, la compagnie néerlandaise des Indes orientales. À l'époque, le business le plus rentable du monde, c'est le commerce des épices en Asie. Problème, le voyage en bateau est très long et ultra dangereux. Du coup, idée de génie du gouvernement néerlandais, forcer tous les marchands à fusionner en une seule super entreprise. Et pour financer les bateaux, le gouvernement vend des petits morceaux de l'entreprise au grand public. Coup double, on crée un géant et le principe de la bourse est né. Ça va mal tourner, puisqu'avec ses milliers de soldats et ses navires de guerre, la VOC colonise l'Indonésie pour sécuriser son monopole. Mais rendez-vous compte, si on ajuste à l'inflation, on estime que la VOC pesait l'équivalent de 7000 milliards de dollars. C'est plus que Microsoft et Apple réunis aujourd'hui.
Et le mot multinational alors ?
Eh bien en fait, il est très récent, c'est à un homme politique américain qu'on le doit, David Lilienthal, qui utilise l'expression Multinational Corporation lors d'une conférence en 1960. Lilienthal cherchait une notion pour décrire ses entreprises qui ne se contentent plus d'exporter leurs produits, mais qui construisent des usines dans d'autres pays. Le concept moderne de multinationales était né, et notre émission avec.
Merci Cyril. Camille Crenier, pourquoi avoir choisi Amazon, Coca, Chine et Total pour les premiers podcasts? C'est vraiment les quatre entreprises les plus symboliques de ce que sont les multinationales?
Non, pas forcément, parce que Cyril vient de citer Apple, par exemple. Ouais. En fait, j'ai pas voulu faire Apple typiquement, parce que j'ai l'impression qu'on connaît déjà un peu par cœur l'histoire d'Apple avec Steve Jobs, etc. J'ai pas fait non plus Tesla ou Elon Musk, parce que pareil, j'ai l'impression que c'est trop... Donc j'ai fait Amazon quand même pour avoir un GAFAM. Je me suis dit qu'il y avait quand même des choses qui étaient en train d'évoluer autour de Jeff Bezos, etc. Et que peut-être c'était un personnage qu'on connaissait un peu moins, parce que Jeff Bezos est quand même dans le club des boys des GAFAM, est un peu le loser du club. Ça s'est vu lors de l'investiture de Trump il y a quelques mois. Coca-Cola, parce que je trouve que c'est un produit qu'évidemment tout le monde connaît. C'est une marque très ancienne. Donc c'est le début d'une histoire qui va aussi avec l'histoire de la publicité, donc je trouvais ça assez intéressant pour voir aussi comment la publicité a réussi à donner de la puissance à une entreprise. Total Energy, alors ce n'est pas du tout la plus puissante des majeures pétrolières, hein. Aujourd'hui c'est Saudi Aramco.
Oui, mais c'est la nôtre. Quoi.
Mais enfin, c'est la nôtre, voilà, on en parle beaucoup, donc je trouve, où il y a Exxon aux États-Unis, mais je me disais, bon, quand même, nos auditeurs, même si on peut écouter le podcast partout dans le monde, ils sont quand même majoritairement, on va dire, français. Donc, je trouvais que ça parlait beaucoup de parler de Total Energy. Et puis, la dernière, Shein, parce que Shein, c'est un sujet dont on parle énormément, dont on parle beaucoup dans l'actualité, mais au final, c'est comme si c'était quelque chose qui nous avait un peu explosé à la figure et on l'a pas vu venir. D'ailleurs, j'ai une invitée dans le podcast qui m'explique que, qui est spécialisée dans l'industrie du textile et qui, elle-même, avec ses collègues, ne l'a pas vu venir. Et donc, c'était intéressant de remonter, justement, avant tout ça pour voir comment elle est née. Parce qu'en fait, juste, ce que j'ai pas dit tout à l'heure au début de l'émission, c'est que comprendre comment ces entreprises sont nées, ont grandi et se sont développées, c'est mieux comprendre aujourd'hui leur puissance et leur éventuel pouvoir de nuisance. Enfin, je dis éventuel, mais il est certain, en fait.
Est-ce qu'elles ont toutes un dénominateur commun entre des multinationales qui sont très incarnées par un patron, l'image du patron est forte, d'autres où on ne sait même pas qui est le patron, c'est juste le nom qui est puissant. Est-ce qu'il y a un dénominateur
commun ? Bien sûr, c'est le profit, c'est les dividendes pour les actionnaires.
Il n'y a que ça, c'est leur raison de vivre. Il n'y a pas de multinationale vertueuse ou qui poursuit un autre objectif ?
Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas celle dont on entend beaucoup parler. Parce qu'au final, une multinationale, en fait, c'est vrai que c'est un mot un peu valise. La définition, c'est en gros, c'est une entreprise publique ou privée, d'ailleurs, qui a une activité dans au moins 2 pays. Donc bon, multinationales, en vrai, il y en a dans le monde presque 80 000, mais il y a plus de 800 000 filiales. C'est-à-dire qu'en gros, si je prends que Total Energy par exemple, Total Energy c'est une société, le siège est à Paris, à La Défense, mais c'est 882 sociétés dans 130 pays. Parce que le principe d'une multinationale, c'est de s'implanter partout en tenant compte et en éventuellement influençant les législations et en surtout en s'en servant aussi.
D'où les activités de lobbying qui vont toujours avec.
Exactement, pour aussi la fiscalité, Amazon, Jeff Bezos par exemple. Donc il y a quand même un énorme point commun de profit, de produire, donc tant mieux. Enfin, en fait c'est ça le problème, c'est que les multinationales au départ on peut se dire c'est super, elles ont produit des choses, le pétrole, enfin ça a évidemment joué pour notre confort etc, mais il y a un moment en fait elles ne savent plus s'arrêter. Et c'est pas qu'elles savent plus s'arrêter parce qu'il n'y a plus besoin, c'est qu'elles sont en train de nous créer des besoins
pour assouvir leur logique de profit.
Voilà, exactement, continuer à produire, à faire de l'argent et à verser des dividendes à leurs actionnaires. Total, il y a des records de dividendes encore l'année dernière.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Vous aussi, vous vous sentez d'humeur festive cet après-midi. Vous aussi, vous avez envie de claquer des doigts au son d'un tube du moment, comme par exemple...
Ah ouais,
c'est normal, c'est la 700e de Zoom Zoom Zen, l'émission qui vit avec son temps, à part musicalement. Et encore, Manon voulait qu'on écoute la Java de Broadway de Michel Sardou. Bref, pour cette 700e, on zoome sur un mot qu'on entend souvent, mais un mot opaque aussi, multinational. Camille Cronier est avec nous pour sa série de podcasts consacrée justement aux multinationales. 4 premiers épisodes sortent aujourd'hui. Alors, Camille, on évoquait rapidement Jeff Bezos, le patron d'Amazon, l'un des hommes les plus riches du monde. On oublie trop vite son parcours. C'était qui, Jeff Bezos, avant Amazon ?
Jeff Bezos, alors, franchement, elles sont partout sur Internet, faut regarder, j'ai repris des sons. À la base, c'est vraiment un gros nerd, un gros geek avec des lunettes. Alors, il a encore des cheveux dans les années 90. Il est avec des pantalons qui lui montent au-dessus du nombril.
Enfin,
vraiment,
Jacques Chirac, ouais.
C'est pas pour faire du délire, parce que chacun son look, mais vraiment,
mais
rien à voir
peu,
avec aujourd'hui. D'ailleurs, c'est intéressant de voir l'évolution physique de Jeff Bezos au fur et à mesure du développement et de la prise de puissance de son entreprise Amazon. Donc, oui. Bezos, c'est un surdoué. Il a fait école Montessori, etc. Il a été adopté, sa mère, en fait, l'a eu avec quelqu'un qui est parti, donc il a été adopté par Miguel Angel Bezos, c'est pour ça qu'il s'appelle Jeff Bezos. Donc surdoué, il a été diplômé de Princeton en sciences informatiques.
Un truc intéressant, au collège, il lance l'idée de noter ses professeurs.
Ouais, il veut noter les profs quand
ça,
il est au collège.
Quoi, absolument. Ça dit, quoi,
ça dit que plus tard, il va faire noter sur Amazon et que voilà, il va lancer quelque chose. Ça dit qu'il est dans la compète. Il lit 12 livres par semaine à l'école primaire de science-fiction pour impressionner les copains, quoi. C'est-à-dire que il est à fond dans la compète et dans une forme de profit, quelque part, en tout cas, tirer la couverture.
Mais
à lui.
À quel moment il tombe dans le web ?
Alors justement, dans les années 90, donc il est diplômé de Princeton, et là, il travaille dans un fonds spéculatif à New York, et il raconte aussi ça dans une vidéo, enfin dans une interview, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai retrouvé ça. Il dit, voilà, je me suis rendu compte dans ces 2 ans de boulot que Internet, c'était le début d'Internet, les années 90, ça augmente de 2300% par an. Et là, il se dit, non, mais il y a trop un truc à faire, il faut que je fasse un business dans ce contexte-là, qui soit adapté à cette croissance d'Internet. Et là, il se dit, tiens, et si je faisais un truc avec les livres ? Pourquoi ? Pareil, hein, il est malin le Bezos. Le livre, c'est facile en fait. C'est facile à vendre, c'est facile à envoyer. Et surtout, il y a un catalogue de 3 millions, juste aux États-Unis, je crois, de 3 millions de titres. Donc il se dit, c'est hyper facile.
Mais après, voilà. C'est aussi un peu un filou parce qu'en 94, je vois qu'il revendique un fonds d'un million de livres déjà. Ce qui était faux, il n'y en avait que 200 000.
Parce que les startups, ils disent make it until you fake it. Until you make it. Pardon, c'est le contraire. Il dit, en fait, il avait 250 000 dispo sur le site, ce qui est déjà pas mal. Mais ils affichent 1 million, la plus grande librairie du monde. Et puis, aujourd'hui, c'est encore plus, quoi.
Et pourquoi le nom Amazon ?
Alors, Amazon, parce que, donc, au début, il avait plein d'idées. Il voulait appeler ça Cadabra, pour faire un peu genre Abracadabra. Puis ils ont dit non, parce qu'en fait, ça ressemblait un peu à cadavre en anglais. Il avait d'autres idées. Et en fait, il a fini par dire Amazon, parce que déjà, ça commence par A. Donc, pour se faire référencer sur Internet, ça, hyper malin, parce qu'il arrive dans les premiers. Ça finit par... Il y a un Z dedans, en tout cas. Donc, ça fait un peu l'idée d'on va de A à Z. D'ailleurs, la petite virgule sourire qui est en dessous va du A au Z, ça montre qu'il y a tout. Et l'Amazone, c'est le plus grand fleuve du monde avec le plus grand débit du monde. Et donc, ça a cette idée de, c'est infini, vous pourrez trouver tout ce que vous voulez. Et au début, c'est que les livres, mais très vite, ça se diversifie.
Il y a une notion qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est la notion de management toxique. Ouais. Lui, il illustre bien ça, apparemment, Jeff Bezos, d'après les témoignages.
Alors, Jeff Bezos, en fait, il y a des témoignages. En fait, on parle de lui soit comme d'un génie visionnaire, parce que, en fait, c'est ça qui est terrible.
C'est peut-être
terrible,
pas incompatible.
À la fois, oui, c'est vrai, mais qui est à sa fois terrible et admirable dans toute l'histoire des multinationales, d'ailleurs, c'est que elles sont visionnaires. Enfin, elles sont super fortes, quoi. Je veux dire, c'est hyper fort d'arriver là où elles sont. C'est qu'elles ont réussi à développer des technologies, des idées. Mais, en fait, au dépens de quoi et au prix de quoi? Et Bezos, il est vu aussi comme, alors, il y a certains qui parlent d'un seigneur du techno-féodalisme. Parce que il y a des conditions de travail horribles dans les entrepôts, parce que c'est quelqu'un, visiblement, qui est très, très dur, qui supporte pas qu'on l'interrompe, qui demande, ne serait-ce que pour avoir l'autorisation de faire une réunion, que faire un pitch de 10 pages, etc. Enfin, voilà, c'est un management toxique avec des espèces de commandements qui sont inscrits partout, y compris à la cantine, etc., pour dire être curieux. Avec les commandements que tous les salariés, que ce soit des cadres ou pas.
Comme quoi, il y a
ouvriers,
pire que celui de la carrière.
visiblement.
Chose intéressante que vous notez, c'est qu'Amazon est devenu le leader mondial du cloud avec AWS. Expliquez-nous pourquoi cette activité est devenue fondamentale.
Alors, c'est ça. Enfin, moi, je l'ai découvert en fait en faisant le podcast. C'est-à-dire que, je sais pas, on est nombreux en tous les cas à avoir le cloud. Même si nous, personnellement, on l'a pas, si on prend juste Radio France, et bien toutes nos données, elles sont stockées, évidemment, dans des centres de données, donc dans ce fameux nuage. Amazon, pour vendre, c'était donc une start-up sur Internet, elle a dû avoir des serveurs Internet. Et au bout d'un moment, quand elle a pris de la puissance, il lui restait de la place, en fait, sur ses serveurs. Et donc, elle a commencé à louer, à dire, tiens, nous, on a de la place, etc. Et en fait, c'est Amazon qui, aujourd'hui, via Amazon Web Services, loue le cloud de Apple, par exemple, de Netflix, WhatsApp, tout ça, c'est chez Amazon. Radio France, c'est chez Amazon. La SNCF, c'est chez Amazon. La CIA, c'est chez Amazon. Et donc, il y a quelques mois, ou l'année dernière, je ne me souviens plus, il y a eu un gros bug de Amazon Web Services. Toute
la CIA est tombée en panne.
Mais tout le monde tombe en panne. En fait, il y a des ministères qui dépendent de ça. Donc, il a une puissance hallucinante. Alors, évidemment, on garde les données, c'est secret, c'est confidentiel. N'empêche que c'est aux mains d'Amazon. Ouais. Quoi.
Que de chemin parcouru en termes de notoriété, notamment pour Manon et Quentin. Souvenons-nous qu'en saison 1, après quelques mois d'antenne, si Manon commençait à ressentir les premiers effets du star system, Quentin lui restait bredouille.
Est-ce que toi aussi t'as l'impression que par moment, des gens te reconnaissent dans la rue ou quoi ?
Moi, même avec le micro à la main, personne ne me reconnaît.
Oh non !
Aujourd'hui, Quentin, j'imagine que vous ne pouvez plus faire un mètre dans la rue sans qu'une horde de fans se jette sur vous.
Évidemment. Les gens se jettent sur vous,
littéralement.
Ouais. Mais surtout quand on parle de multinationales.
Oui, là, évidemment, ça les intéresse.
Il y a Quentin, vous êtes allé en bas, je crois.
Exactement, des pancartes.
Vous êtes allé soumettre ce terme de multinationale au passant, justement.
Ma première rencontre, c'est Alice, 37 ans. Elle déboule dans la rue un peu comme dans un clip. Elle a un casque Bluetooth imposant, bien vissé sur les oreilles, et elle chante. Elle ne murmure pas, elle chante vraiment au milieu de la rue.
Bonjour.
Vous étiez en train de chanter?
Ouais.
Vous chantez quoi?
Je chante Tainted Love de Soft Cell.
Dans la rue, comme ça?
Ouais, tout le temps.
Les gens vous arrêtent ou pas?
Non, mais les gens se retournent, ils pensent que je suis folle.
Alors qu'elle n'est pas folle, et elle chante juste, elle scrute alors notre mot du jour dans Zoom Zoom Zen.
Multinational. Ah waouh, je peux rien vous dire.
Mais si.
Mais je sais même pas ce que ça veut dire multinational. Est une entreprise présente dans plusieurs pays qui produit, vend, organise des activités à l'échelle mondiale.
Voilà, c'est Amazon, Coca...
Ouais, ok. H&M, machin et tout, ok.
En France, on en a, hein.
De quoi,
Des multinationales?
Ah bah, y en a plein.
Lesquelles?
Bah, les trucs de luxe.
Pas que. Auchan.
Auchan? C'est dans d'autres pays, Auchan?
Ah oui. Bolloré?
Oui, bon, Bolloré, de toute façon.
La Société Générale?
Ah ouais, ok.
Il y en a une qui est bien française. Facile. Pneumatique.
Pneumatique.
Michelin.
Ah, les pneus, ouais.
Eh oui, les pneus. Maintenant qu'on a une liste, est-ce qu'on peut être fier de nos multinationales ?
C'est un peu des clowns, quoi. C'est un peu un cirque, tout ça. Du coup, une fierté... Ouais. Pas plus que ça, une fierté, quoi. Vu que je sais pas ce qui se passe dans les... en interne dans ces groupes-là. Ouais. Honnêtement...
Et pour vous, c'est opaque. Ça traduit une opacité.
Ouais, c'est opaque. Pour moi, c'est des trucs... C'est des gens intouchables.
C'est... Derrière des grands bâtiments en verre.
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis c'est des gens avec qui on va pas dealer, qui vont te la faire à l'envers, quoi qu'il. Enfin, pour moi, c'est, voilà, c'est un truc de... un peu obscur, quoi. Un peu comme la politique. Un truc de guignol, un peu.
Ma deuxième rencontre marche doucement, les mains croisées dans le dos. Une paire de lunettes roses qui tranchent avec le gris de la rue. Les cheveux grisonnant parfaitement en place. Elle a ce pas régulier, tranquille, celui de quelqu'un qui connaît son chemin. Que fait-elle dans la vie ?
La marche, le cinéma, j'y vais là d'ailleurs.
Vous allez voir quoi ?
Je ne me rappelle pas du titre, mais quand je vais voir l'affiche, je m'en souviendrai.
Je lui parle, on parle ensemble des multinationales.
Répétez-moi le nom des multinationales.
Bah, Total, Amazon, Carrefour.
Carrefour. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire que toutes les petites boutiques sont en train de se casser la tête. Et ça, c'est moche. Là, je vois mon quartier, j'habite le 14e. Tout ferme. C'est dramatique. Ça n'a plus rien à voir. Moi, je suis à Paris depuis 60 ans. C'était sympa. La rue d'Alésia était vivante. Je suis encore dans ce quartier-là, mais ça a beaucoup, beaucoup changé.
Alors, est-ce que les multinationales ont vidé les rues commerçantes ? Je réfléchis à tout ça et je poursuis mon chemin. Et ma dernière rencontre, c'est cet homme. Les cheveux dans le vent, les yeux rivés sur son portable. Il porte un imperméable de bord de mer, un jean ajusté, pas slim, mais une coupe droite, qui tombe parfaitement sur ses Véja, bien propre, bien blanche, la basket éco-responsable assumée.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Mathieu.
Mathieu, vous attendez qui ?
J'attends Julia pour un rendez-vous professionnel. Qui doit être quelque part autour de nous, puisqu'elle me dit qu'elle cherche une table au soleil.
Le temps qu'elle trouve la table, dernière réaction sur les multinationales.
Multinationales.
De quoi on parle ?
De grosses entreprises internationales.
Vous pouvez m'en citer quelques-unes ?
Grande question, il y en a beaucoup. En ce moment, on parle beaucoup de guerre, donc de pétrole, donc j'ai envie de dire Total, mais il y en a plein d'autres. Il y a les finances, il y a les banques, la SOG, la BNP, les assurances, il y en a beaucoup.
On parle du fait de faire attention, même sur des marques qu'on ingère, littéralement, je pense à Coca-Cola par exemple.
Nourriture, j'essaie quand même de faire attention, vous avez cité Coca-Cola, bah, moi j'en achète pas, j'achète jamais de boissons comme ça pour mes enfants, mais quand on fait leurs courses avec eux, ou quand on va à un anniversaire évidemment... Plutôt que le jus de fruits bio de la ferme du coin, ils ont tous envie de boire du Fanta, du Coca ou de l'Orangina. Et ça, c'est un peu dur d'y résister, malheureusement.
Alors forcément, on y pense parce que les multinationales, finalement, on les a dès l'enfance et elles nous chopent aussi par le marketing. Est-ce qu'il y a une multinationale dont il ne pourrait plus se passer, lui ?
Je pense que Google, aujourd'hui, c'est un peu celle dont je ne peux pas me passer. Parce qu'ils ont réussi à créer un écosystème qui est... extrêmement utile à titre personnel. Je prends un exemple, Google Maps pour trouver son chemin, Google Agenda pour tenir son planning, Google Mail pour avoir son mail, Google Drive pour avoir toutes ses pièces justificatives en numérique et accessibles de partout. Donc ouais, je pense qu'aujourd'hui Google, c'est un peu la multinationale dont je peux pas vraiment me passer.
Ils nous ont rendu dépendants.
Ouais, et après on s'est laissé prendre au jeu aussi. Hein. Comme on dit, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, et Google c'est gratuit, donc c'est que quelque part on est tous les produits de Google.
Et au fond, c'est peut-être ça le vrai piège, les multinationales ce ne sont plus seulement des marques, ce sont devenues nos habitudes, et quand on commence à s'interroger, c'est déjà qu'elles ont peut-être un peu gagné. Google, à ses débuts, avait pour slogan, don't be evil, mais au fond, qui pourrait devenir le plus malveillant dans cette histoire ?
Merci Quentin. Alors je sais que vous êtes désormais incollable dans le monde de la mode, mais j'aimerais des explications sur qu'est-ce qu'un imperméable de bord de mer. Par quoi vous en...
Oh bah c'est un ciré jaune. Ouais voilà, c'était pour...
C'est un mot plus court, deux syllabes.
Bah, mettre un peu plus de vocabulaire aussi.
Oui c'est vrai, là il n'en manquait pas.
Il y a eu le slim aussi.
Ah le slim.
Le jean droit, le slim.
Au moins ça c'est court.
C'était un jean droit bien coupé.
Camille Crenier, c'est nous le produit d'une entreprise comme Google aujourd'hui, en nous donnant des nouvelles habitudes, des nouveaux besoins, en les créant de toutes pièces finalement. toutes ces entreprises ont fait de nous des produits.
Mais on est complètement dépendant. Enfin, c'est-à-dire que là, l'actualité, il le disait, le monsieur Oveja, je crois d'ailleurs, on voit ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz, avec les bateaux. En fait, on est ultra dépendant au pétrole. Là, par exemple, on parle tous dans du pétrole. On a du pétrole sur les oreilles avec les casques. Enfin, tout ça, c'est du pétrole. Les ordinateurs, c'est Microsoft sur Radio France, par exemple, et c'est ailleurs. On a nos téléphones, nos banques. En fait, on ne peut plus faire sans. C'est un système, c'est pas monopolistique, parce qu'il n'y a pas une multinationale dans le monde, mais c'est oligopolistique. C'est-à-dire qu'elles sont partout, elles possèdent énormément de choses, il y a énormément de filiales. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment tentaculaire, en fait.
Est-ce qu'elles ont vidé les rues commerçantes, ce que disait cette dame dans la rue?
Oui, quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, si je prends juste Amazon, les gens vont aller acheter beaucoup plus rapidement sur Amazon. Jeff Bezos, il a aussi créé un truc très important qui est l'achat en un clic, la livraison en un clic, pour beaucoup inciter encore une fois à l'achat. C'est-à-dire que, encore une fois, l'idée du podcast de base, c'est pas forcément de jeter la pierre sur ces multinationales, parce que bon, moi la première, je veux dire, je sais pas, pour ma banque, moi celle dont je pourrais pas me passer, je crois, c'est Amazon, parce qu'Amazon, on l'a dit, avec Web Services, ils sont partout. J'ai plus de banque s'il y a plus Amazon Web Services, vous non plus, enfin, il y a plein de choses comme ça, il y a plus de SNCF, je peux plus prendre mon billet de train, etc. Mais à la base, ces multinationales, elles sont là pour quand même aider nos vies. Et quelque part, on peut pas leur enlever ça. C'est super, il y a eu du progrès grâce à elles. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il faut s'arrêter. Et elles ne s'arrêtent jamais. Et pour ne pas s'arrêter, elles continuent à nous rendre dépendants. Elles dépensent des sommes colossales en publicité, en lobbying, évidemment, pour influencer les lois, etc. Et en fait, c'est plus possible. Enfin, on le voit aujourd'hui, le monde, il est en train de partir complètement en cacahuète, quoi.
France Inter. Zoom Zoom Zoom. Mathieu Noël.
Pour la 700e de notre émission, qui est elle-même en passe d'en devenir une, on zoome sur les multinationales. Et pour le quiz, on va partir à la découverte des multinationales de l'ombre, celles qu'on ne connaît pas bien et qui pourtant sont au cœur de nos quotidiens, comme la Lui Corporation, un conglomérat aux secrets bien gardés, tasses connectées, déménagement au black, conseil en défiscalisation, gestion en multipropriété de karting. La Lui Corporation est partout et nulle part à la fois, en tout cas en ce qui concerne les services fiscaux qui pensent être en présence de la plus grande fraude depuis l'arnaque à la taxe carbone, ayant constaté, c'est vrai, qu'on n'avait jamais vu Quentin et Marco Mouli dans la même pièce.
Oh, bah
jouons au Zoom Zoom Test.
Ouais, pardon,
une petite différence.
On n'a pas le même dentiste.
Voilà.
Vous démarrez, en espérant qu'il écoute. Vous démarrez le quiz avec un point de pénalité pour insulte à Marco Mouli, qui est un ami.
Non,
pas du tout. On démarre par une multinationale aussi cruciale pour notre quotidien qu'absolument inconnue au bataillon. Ainsi, demain, si je vous annonçais que, là, d'entendre le rire de Manon et les vannes graveleuses de Quentin...
Les trois Suisses écartent les cuisses.
Très bien. Je décidais de quitter l'audiovisuel public. C'est ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit est encore pire. Je décidais de quitter l'audiovisuel pour rejoindre le groupe Tata Consultancy Service. Vous diriez certainement, quel loser ce Mathieu. Une phrase que jamais auparavant on n'aurait imaginé prononcer, même la fois où j'avais dit « cringe » à la place de « cringe ». Vous auriez tort de vous foutre de moi, car en rejoignant la Tata Consultancy Service, je risque fort de tripler mon salaire. Car sans Tata Consultancy Service, la vie d'un citadin moderne s'arrêterait de fonctionner en moins de 24 heures. Selon vous, pourquoi? Parce qu'ils sont numéro un des logiciels de maintenance des satellites GPS civils. Parce qu'ils gèrent l'architecture informatique des virements et des retraits bancaires. Ou parce qu'ils assurent la maintenance prédictive et logicielle des flottes des géants du transport comme Air France, Delta Airlines, SNCF et Flixbus.
C. Je vais dire C.
Quentin, vous dites B en vous cachant
Parce que Camille, les réponses.
Ah oui, d'accord.
Moi, c'est fair.
On pensait que Camille allait
vous
nous
aider. Vous êtes fair play, c'est une bonne réponse, effectivement. Quentin, c'est la B. Et non. Tata Consultancy n'est pas une vieille voyante dans une roulotte du bois de Boulogne, c'est un géant invisible. TCS emploie plus de 600 000 personnes pour maintenir les infrastructures numériques des plus grandes institutions financières mondiales, dont de nombreuses banques centrales et systèmes de paiement. 40% des marchés de capitaux passent par eux, autant vous dire que s'ils m'appellent, bon je sais pas trop à quoi je pourrais leur servir, mais je répondrai présent. Rien que pour la cantine qui, à mon avis, est mieux que la nôtre. Mais attention pour la question suivante. Il va falloir deviner le nom d'une entreprise qui, si elle était un pays, serait tout simplement la troisième puissance économique mondiale derrière les États-Unis et la Chine. Je sens que rien que ça vous étonne, Manon.
Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul.
Prenez un bonbon au miel, Manon, votre voix est bizarre. Bref, d'après vous,
c'est très en forme.
Quelle est cette multinationale plus puissante que l'Allemagne, que l'Inde et même la France? S'agit-il de BlackRock, le fonds d'investissement américain? Goldman Sachs, la banque d'affaires américaine? Ou Vanguard, le géant de la gestion d'actifs?
C'est
A.
Camille, Vous pouvez aider. Vous avez aidé visiblement Manon. Ah, puisque c'est Manon qui a la bonne réponse.
C'est BlackRock.
C'était la réponse à effectivement. Avec plus de 14 milliards de dollars sous gestion fin 2025, BlackRock est souvent le premier ou deuxième actionnaire de la plupart des grandes multinationales mondiales et a même aidé les gouvernements à stabiliser l'économie pendant le Covid. Un fonds d'investissement super gentil donc, qui a malgré tout ses détracteurs. Comme dirait Cyril, de toute façon les gens sont jamais contents. Personnellement, je ne dirais pas de mal de BlackRock, seulement que ça me rappelle une célèbre chanson des Guignols de l'Info.
We find the world.
Ah oui. La World Company.
We fuck the world. Vous vous souvenez pas de cette chanson, Manon ?
C'est sûr, alors là, quand même.
Oui, mais vous étiez tout petit, vous.
Oui.
Vous avez connu la grande époque des Guignols de l'Info. C'était évidemment 14 000 milliards de dollars sous actifs, et non pas 14 milliards. Ça, c'est juste la fortune du tonton milliardaire de Quentin.
Ça, c'est les bénéfs de Total Energy, 14 milliards.
14 milliards, c'est les bénéfs ?
Ouais, l'année dernière.
Restons aux États-Unis, à San José, plus précisément où se situe le siège de Broadcom. Encore une multinationale que vous ne connaissez pas, et pourtant, and yet. Sans Broadcom, vous ne pourriez pas profiter des 18 stories quotidiennes de Pierre Courade et vous seriez passé à côté du fait que Fulgence Florimond a décroché le bronze en curling hémiplégique au JO de Milan Cortina. Car Broadcom a le monopole des pylônes 5G en Europe et le leader mondial des caméras pour téléphone cellulaire où fabrique les puces présentes dans presque tous les routeurs et smartphones.
A.
Alors là, moi, je sais pas. Je dirais pas la C, j'ai l'impression que c'est un autre, c'est un truc genre qui s'appelle Nvidia.
Les caméras, non
mais...
Nvidia, c'est les cartes graphiques.
Ah.
C'était la réponse C.
Ah,
personne n'a trouvé.
Ah, la honte.
Broadcom est le leader des semi-conducteurs de communication réseau et Wi-Fi. Leurs puces sont intégrées dans la quasi-totalité des routeurs, smartphones et équipements réseau. Enfin, direction Hong Kong. Fascinante cité-état moderne, siège du groupe Li Enfung, sans qui Manon ne pourrait pas porter son crop top badass du 11e, car c'est eux qui orchestrent toute la chaîne, du sweatshop bangladais au cintre Shein au BHV. Pierre ne pourrait pas acheter ses shorts poutres apparentes sur Amazon, car c'est Li Enfung qui gère les entrepôts et la livraison du dernier kilomètre dans 120 pays. Ou Cyril ne pourrait pas s'endormir devant Netflix en HD, car il fournit et gère les trois quarts des serveurs utilisés par les plateformes de streaming.
Bah c'est,
je pense. B. Les shorts.
C'est encore une mauvaise réponse.
Mais je suis pas rien.
Et moi,
et vous, c'est encore une mauvaise réponse.
C'était là,
Manon, votre crop top, votre petit crop top. Vous ne pourriez pas l'avoir. Même si elle porte le nom d'un institut où Quentin s'est fait épiler le sif pour gagner du poids en karting, Li Enfung est le leader historique de la gestion... Oui, vous cherchez le moindre gramme.
Non, mais ça va pas.
Li Enfung est le leader historique de la gestion de chaînes d'approvisionnement mondiale, faisant le lien entre les grandes enseignes de distribution et les sous-traitants asiatiques. Vous voilà moins bête. Il n'était pas gagné. Défaite de l'empreinte carbone et victoire de personne. C'est un match nul, comme vous. C'est ce qu'on m'a soufflé en régie. Que nous cachent les multinationales ? Camille Cronier est avec nous pour sa nouvelle série de podcasts consacrée justement aux multinationales, dont les 4 premiers épisodes sont à découvrir dès aujourd'hui sur le site et l'appli Radio France. Alors Camille, on a parlé d'Amazon, parlons maintenant d'une entreprise française, Total Energy. Alors là encore, vous racontez l'origine de cette multinationale, c'est vrai qu'on n'en a parfois aucune idée. Hein. Tout ça commence en Irak, puis très vite en Algérie, c'est ça ?
Alors ça commence même avec la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que la France n'a pas de pétrole, c'est les États-Unis qui fournissent le pétrole à la France. En 1917, Clémenceau, il se rend compte qu'il n'y a plus de pétrole et donc là, ils appellent à l'aide les États-Unis en disant « faut nous en fournir » et donc le gouvernement français se dit « oula, va falloir qu'on change un petit peu ça ». Donc, il crée en 1924 la CPF, la Compagnie Française des Pétroles. Et ils vont commencer à chercher du pétrole, il y en a vraiment très très peu métropolitaine. Au départ, c'est public, absolument. C'est public mélangé avec du privé.
D'accord,
c'est-à-dire qu'il y a Rothschild dans le game quand même. L'État, au départ, il a 25%. Quelques années plus tard, ça sera 35%. Mais en tout cas, c'est mandaté par le gouvernement français. Donc, ils vont chercher d'abord du pétrole en Irak, parce que, alors, je vous passe les détails, mais la Mésopotamie, qui est l'Irak à l'époque, est partagée vraiment comme un objet, quoi, avec les alliés qui se la partagent en disant, ben, moi, je vais prendre tel truc. Donc, la France a une part du butin, l'Irak. Il y a du pétrole là-bas qui est trouvé au début des années 30. Et puis, donc voilà, ça coule à flot, c'est super, etc. Il y a quand même la grosse concurrence avec les Américains, qu'on appelle les Sept Sœurs, qui sont vraiment les grosses puissantes de la scène mondiale. La France, du coup, se dit, bon, il faut qu'on trouve ailleurs, etc. Parce qu'en plus, bon, bah, l'Irak commence à reprendre aussi ses droits. Il veut avoir un petit peu la main sur son pétrole, comme tous les pays du Moyen-Orient. Et du coup, on va chercher du pétrole dans les colonies françaises, puisque il y a les colonies françaises. Donc, on part dans les années 50 en Algérie. Et là, il y a un énorme puits qui est trouvé en juillet 1956 en Algérie. Donc là, c'est vraiment le jackpot. La France se dit génial. Sauf que, bah, évidemment, il y a la guerre d'Algérie en même temps. L'Algérie devient indépendante. Et et donc bah, là, la France se dit, bah, faut qu'on trouve encore ailleurs, etc. Évidemment, ils arrivent à négocier pour garder un petit pied en Algérie.
Ah,
et, bah, évidemment, hein, y a toute une dimension géopolitique dans tout ça. Hein, c'est très très important. Donc il y a des choses horribles qui se passent. C'est mélangé avec l'État français. Hein, ce n'est pas encore Total Énergie à l'époque. Total Énergie, ça date que de 2021. C'est même pas encore Total. Ça s'appelle toujours la Compagnie Française des Pétroles, mais ça se développe. Il y a des petits bras comme ça. Je vous parlais des tentacules tout à l'heure qui sont en train de se mettre en place. Et par exemple, les services français financent et arment au Nigeria. Donc, ça, c'est pas une ancienne colonie française, c'est une ancienne colonie britannique. Il y a une région qui s'appelle le Biafra où il y a énormément de pétrole. Il y a la guerre d'indépendance du Biafra à la fin des années 60. La France finance les indépendantistes pour la guerre parce qu'ils se disent, bah, si on les aide à gagner, on aura le pétrole. En vrai, ils perdent, ils savent très vite, et il y a 2 millions de morts, quoi. Voilà, par exemple.
Pardon, mais c'est encore aujourd'hui en Ouganda, vous parlez du méga projet pétrolier.
Oui, bien sûr, ICOP. Il y a des milliers de personnes qui sont expropriées. En fait, c'est vraiment...
C'est un désastre.
On va dire aux gens, mais regardez, on vous donne de l'argent, ça va être super. Et puis, vous aussi, vous avez le droit d'avoir du pétrole et d'être riche et d'être confortable comme les Occidentaux. Enfin, vraiment, c'est là-dessus. Donc, ils vont pas être riches. Il y a des milliers de personnes qui sont en procès, qui se font exproprier, mais vraiment, quoi. Et qui attendent encore, en plus, d'être payées. Donc, c'est une catastrophe humanitaire aussi qu'il y a derrière le pétrole.
Depuis décembre dernier, Total est coté à Wall Street. Est-ce que, du coup, c'est toujours une entreprise française?
Oui, c'est toujours une entreprise française. Alors, il y a des parfois des rumeurs, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tous les cas, qui disent voilà, Patrick Pouyanné, en vrai, Total Energy agit assez facilement et sans trop de problèmes un peu partout dans le monde. Il y a un peu qu'en France, où il y a énormément de mobilisation, de critiques, etc. Et ça gonfle Patrick Pouyanné, même si ça n'empêche pas du tout de faire des projets, etc. Ça ne l'empêche pas du tout, mais ça le saoule, clairement. Et il y a des rumeurs qui disent qu'à un moment, peut-être que Patrick Pouyanné, il va dire en fait, la France, vous me saoulez, je vais partir et je vais m'installer à New York. Donc à ce moment-là, mais alors là, je vous raconte pas. Je pense que l'État français sera pas du tout d'accord, même s'il est plus du tout dans l'état-major de Total. Je pense que quand même, il sera pas d'accord. Donc on verra bien. Mais des fois, il y a des rumeurs qui disent ça.
Un petit mot pour finir sur la personnalité du patron de Shein, qui est très très différent.
On sait pas qui c'est.
Oh, mais, si c'est Chris Chu normalement.
Oui, Chris Chu. Mais en vrai, alors c'est très drôle si vous tapez Xu Yangqiang, son vrai nom. Si vous tapez sur Google, il y a une photo qui apparaît partout, même dans des articles. C'est pas du tout lui. C'est un homonyme américain qui est genre prof de physique quantique ou je sais pas quoi.
Ah, il se cache en fait alors le
en
patron
fait,
de Chine.
Personne ne sait qui c'est. Mais moi vraiment à lire des trucs, je me suis dit mais ça se trouve en vrai il n'existe pas.
Ça se trouve c'est l'inventeur du Bitcoin aussi.
Non mais c'est peut-être on ne sait pas. Peut-être que c'est d'autres personnes qui se sont mis derrière. Je sais pas. C'est comme on vient d'apprendre qui était Banksy le vrai quand même. Enfin, mais peut-être que c'est pas vraiment quelqu'un, que c'est un collectif. On ne sait pas. En tout cas cette personne on ne l'a jamais vue, on ne l'a jamais entendue. Elle est citée sur le site internet de Chine. Aujourd'hui il vivrait à Singapour. Il aurait d'ailleurs la citoyenneté de Singapour. Mais c'est un mystère total.
Bon, vous avez le temps de trouver pour votre podcast.
Mais non, j'ai pas trouvé, ça y est, c'est fait, vous pourrez écouter, mais c'est pas grave, il y a plein de trucs à raconter
sur
Chine.
Oh là là. Passionnant. Merci beaucoup. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. Ouvrons la pièce jointe de Manon Mariani.
Un moment viral aujourd'hui.
Here it is, the big arch. I love this product. It is so good.
It is so good. Je vous présente le Big Arch. Je vais en goûter une bouchée. C'est super bon. Vous entendez la voix de Chris Kempczinski, le CEO de l'une des multinationales de fast-food la plus connue et prolifique au monde, McDonald's. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 120 000 personnes, il se filme régulièrement face caméra en train de parler de son entreprise. Il classe par exemple ses sauces préférées, il donne des anecdotes sur McDo et il teste donc ses nouveaux produits pour en faire évidemment la promotion. L'objectif est assez clair. Il veut montrer qu'il est un patron accessible, assez cool, proche de ses équipes, de ses clients, dans une entreprise souvent critiquée pour son modèle industriel. Dans cette vidéo, il déguste donc le Big Arch, soit l'un des plus gros burgers de McDo, composé de 2 steaks hachés, de 3 tranches de cheddar fondu. Sauf qu'au lieu de le croquer goulûment dedans, comme on le fait tous dans un burger, eh ben il prend une minuscule bouchée. Résultat, la scène n'a pas du tout convaincu les internautes sur les réseaux. Beaucoup se moquent. C'est la plus petite première bouchée que je n'ai jamais vue de ma vie, dit par exemple quelqu'un. D'autres se demandent pourquoi il a l'air presque dégoûté par sa propre nourriture. La vidéo devient donc virale au point que les concurrents de McDo s'en moquent aussi. Le premier à dégainer, c'est Burger King. La marque publie une vidéo de son propre président qui croque dans le fameux Whopper avec énormément d'enthousiasme. La séquence récolte des dizaines de milliers de likes. Même réaction chez Wendy's. Son président publie une vidéo où il prépare lui-même un Braconator. Je ne connaissais pas ce burger. Avant d'en croquer une énorme bouchée. Ouais, ça fait envie. Des réactions qui illustrent parfaitement ce qu'on appelle le real time l'email marketing une stratégie qui consiste à détourner immédiatement un bad buzz pour en faire une publicité. Mais bon, le bad buzz a aussi des effets inattendus, car malgré les moqueries, McDonald's affirme que toute cette attention a dopé les ventes du Big Arch lors de son lancement. La marque a même choisi l'autodérision en publiant sur X une photo du burger accompagnée d'un message « Prenez une bouchée de notre nouveau produit ». Ça m'a presque donné envie de le goûter.
Et je précise que ce n'est pas le braconateur qui serait avec une viande issue du braconnage, mais le baconateur certainement au bacon.
Très bien.
Probablement Wendy's nous enverra certainement pour qu'on goûte aussi.
J'ai hâte.
Oui, on cite toutes les marques, mais on veut goûter.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Certains n'ont pas attendu le direct pour fêter la 700e de Zoom Zoom Zen. Dès la dernière fois au Blériot, Pierre Courade a attaqué très fort. Même William lui avait dit de se méfier, que prendre un baba chartreuse après avoir descendu un litron de Beaujolais, c'était risqué, c'était même mettre en péril l'antenne de France Inter. Pierre n'a rien voulu entendre, il a commandé son baba chartreuse qu'il a trouvé...
exceptionnel. Articulé, c'est mieux peut-être. Exceptionnel.
Pierre, si toutefois vous êtes en mesure, résumez-nous tout ce qu'on s'est dit sur les multinationales en une minute chrono.
Camille Cronier, qui est à mes côtés et qui a travaillé avec moi, sait que je travaille jamais. Lapsus.
Je ne vois jamais pendant le travail.
Vous en avez dit des conneries à ce micro, Pierre, mais alors là,
pas pendant le service.
Enchaîner.
Ah oui.
Donc aujourd'hui,
il
Camille
est très
Cronier.
Sérieux.
Oui.
Merci Camille.
Oh.
Il est aujourd'hui, fait. Camille Cronier donc était avec nous pour nous présenter sa série de podcasts consacrée aux multinationales. Un mot générique qu'on entend tous les jours, mais qui désigne des entreprises qui savent cultiver le mystère. Parmi elles, Amazon, le mastodonte créé par Jeff Bezos dans les années 90. Au départ, il s'agissait d'une sorte de Fnac numérique, on ne pouvait acheter que des livres, mais à force de marketing agressif, l'entreprise s'est rapidement diversifiée et a proposé de nouveaux services, si bien qu'en plus de ses activités de livraison à domicile, Amazon est aujourd'hui propriétaire d'une plateforme de vidéos en ligne et même d'un programme spatial. Mais ce qu'on apprend à travers le podcast de Camille Cronier, c'est que sa puissance, Amazon, la tient aujourd'hui de son leadership dans le cloud, avec sa filière AWS, qui héberge les données de la CIA, de Netflix, de la SNCF ou encore de Radio France. Amazon, c'est en quelque sorte l'exemple typique de la super multinationale plus puissante que certains États. Mais comme nous le rappelait Camille Cronier, il suffit qu'une entreprise ait des activités dans au moins deux pays pour en faire une multinationale. Il y en a 80 000 actuellement dans le monde. Néanmoins, le chiffre le plus important, c'est celui des filiales. 800 000. Total Energy a par exemple près de 1000 filiales à travers le monde. Mais le véritable point commun à toutes ces multinationales, c'est la recherche de profit pour grossir indéfiniment et verser toujours plus de dividendes à leurs actionnaires. Et tout le reste est à découvrir dans le podcast multinational de Camille Cronier, en ligne depuis aujourd'hui.
Bon teasing, et vous avez bien repris votre souffle à un moment, j'ai eu peur pour vous, parce que c'est vrai que c'est le problème de la chartreuse.
Mais ça c'est la chartreuse.
Mais vous en êtes bien sorti.
Ça va faire un service.
Tout comme une certaine plateforme de vente en ligne, on peut dire qu'il est en ce moment à son prime. Voici Harold Barbet.
Vous vous rendez compte, les amis, que les utilitaires blancs concentrent à eux seuls tout ce que l'on dénonce aujourd'hui dans l'émission ? Combien de conducteurs d'utilitaires blancs livrent des produits Chine ou Amazon en buvant un Coca-Cola acheté après avoir fait son plein chez Total? C'est le combo ultime. Moi, ça y est, j'arrête de commander sur Amazon. Pas à cause de Jeff Bezos, mais parce que je supporte plus de manquer de me faire écraser par un utilitaire blanc une fois par jour. Avant, le danger que représentaient les conducteurs d'utilitaires blancs, c'était le kidnapping d'autostoppeuses. Maintenant, c'est faucher des cyclistes. Tout ça parce qu'ils trouvent pas la bonne adresse sur Waze. Ils roulent comme des dingues pour livrer toujours plus vite. Et je comprends, quelque part, tu sens qu'ils veulent conduire le plus vite possible, car ils veulent en finir le plus vite possible. Mais ça sert à rien. Il y aura toujours des colis à livrer. Il y aura toujours des gens qui commanderont des enceintes Bluetooth ou des chargeurs d'iPhone. C'est comme les rediffusions de Gamelot sur W9. Ça ne s'arrêtera jamais. Après, il faut se détendre. Vous ne livrez pas du sang ou des plaquettes. Vos colis contiennent des sextoys et de la pâte à modeler. Vous pouvez prendre votre temps, je vous assure. Les livreurs sont en tension. Tu sens qu'ils marchent à flux tendu. Les pauvres. L'autre jour, il y en a un qui m'appelle. Il me fait ouais, je suis devant chez vous là. Je sonne. Il n'y a personne qui répond. Je dis bah, je suis pas là. Ouais, mais il n'y a personne qui répond. Bah oui, ça va sembler fou, mais si je suis pas là, je peux pas vous répondre. Et souvent, quand t'es absent, il dépose le colis. Mais tu dois chercher où ? C'est Pâques pour adultes. Moi, le livreur m'a dit qu'il l'avait caché derrière un volet. J'ai tourné et retourné tous les volets de chez moi plusieurs fois sans jamais le trouver. Je pourrais être démonstrateur chez le roi Merlin. Maintenant, je te démonte un volet en un temps record. Et je gueulais comme un putois dans la rue. C'était bordel, il est où mon nouveau siphon de lavabo ? Les autres habitants du quartier ont dû se dire que j'avais un début d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Barbet ? Apparemment, il pense que le siphon du lavabo se trouve derrière les volets. Ça va pas mieux, lui. Hein. Sa musique de fou, ça. Une fois, j'ai cherché mon colis pendant deux jours. Tout ça pour apprendre qu'il avait été livré chez un voisin à 30 km de chez moi. Au final, la réplique du tableau de Van Gogh que j'avais acheté pour l'anniversaire de ma mère, j'aurais mis moins de temps à la peindre moi-même que de la commander sur Amazon. T'as fait chier, quoi. Les mecs sont limites, parfois. Ça, l'autre fois, il y en a un qui me fait « Ça vous dérange de me retrouver en bas de chez vous et de monter vous-même les 7 étages ?» Ok, si ça peut vous aider, quoi. Ça vous dérange si je vous laisse les colis de vos voisins? Bah, je sais pas, il y en a combien? 37? Ah, quand même. Dites-moi, maintenant que je suis là avec votre colis, ça vous dérange si je dépose une pêche à mon Et je sais que c'est pas bien de commander sur Amazon, mais je vais pas faire le faux cul non plus. C'est comme regarder l'intérieur de son Kleenex après cette mouchée. Tout le monde le fait. En faisant cette chronique, j'ai l'impression d'être aussi authentique que l'engagement écologique de Total. Je crois que ce que je déteste le plus chez Total, c'est leur slogan « Vous ne viendrez plus chez nous par hasard ». Alors moi, à titre tout à fait personnel, ça n'a rien à voir avec le hasard. Je vais chez Total uniquement pour utiliser les toilettes de leur station d'autoroute. J'achèterai jamais leur essence car elle est trop chère, mais par contre, leurs latrines sont extrêmement confortables. C'est super chic, les stations Total, c'est Beverly Hills. Quand je regarde le prix de leur sandwich triangulaire, j'ai la même réflexion que quand je regarde le prix des bottes en vitrine à Deauville. Oh bah dis donc, il y en a qui ont les moyens, quoi. Nous, dans le métal, quand on dit « c'est la guerre !» en rigolant, c'est parce qu'on n'arrive pas à atteindre le bar. Chez Total, quand ils le disent, eux, c'est parce qu'ils vont passer le prix du samplon à 3 euros. C'est une autre mentalité. Quand je repars d'une station service Total, après avoir fait mes besoins, en sachant que j'ai fait mon plein dans un supermarché et que ça m'a coûté deux fois moins cher, j'ai toujours un peu l'impression de déféquer chez eux une deuxième fois. J'aime pas Total. Personne n'aime Total. Et ça, pour le coup, c'est pas un hasard.
Merci beaucoup, Harold Barbet.
Total, ils ont fait de la pub dans les années 90 pour dire qu'il fallait aller justement aux toilettes chez eux parce qu'ils avaient toujours du papier.
Ah, c'est vrai que ça faisait partie de leur argument.
C'était une publicité à la télé.
Vous étiez dans le juste, comme souvent, Harold Barbet. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom et en tournée le 20 mars à Rouen, le 26 à Paris et les 2 avril à Lausanne. Merci Camille Cronier. Grâce à vous, les multinationales sont un peu moins opaques. Pour aller plus loin, évidemment, votre série de podcasts sur les multinationales. Et puis on vous retrouve dans les petits bateaux tous les soirs.
Et demain matin.
De vous la terre.
6h48.
Évidemment,
merci
6h48.
Beaucoup.
Merci à vous.
Zoom Zoom Zen.